Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'abbé Grégoire Cellier. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs.
Merci de votre présence.
Bien rare, hélas.
Je ne commenterai pas parce que nous passerions une émission entière sur les plaintes réitérées et répétées de l'abbé Grégoire Cellier. J'accueille le père Jean-François Thomas. Qui lui ne se plaint pas ?
Non, pas de lamentation.
Pas de lamentation. L'abbé Marc Genfucci, monsieur l'abbé, bonjour aussi.
Bonjour, cher ami.
Et notre ami Guillaume de Thulois, tout simplement.
Bonjour.
Enfin, tout simplement.
C'est déjà simplement.
C'est déjà beaucoup. qui représentera l'aile marchande de l'Église, le laïcat, duquel nous attendons beaucoup. Je parle du laïcat. Hein.
Oui, parce que de l'aile marchande, on n'attend plus grand-chose.
On n'attend plus grand-chose. Alors, nous fêtons dimanche la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et on dit souvent que ce Saint-Esprit, si je puis me permettre de parler comme ça, c'est un peu léger et je vous en demande pardon, est finalement peu connu, et j'allais dire même peu pratiqué de la part des chrétiens. On a parfois du mal d'ailleurs à dire qui il est, tout simplement. Et voilà, c'est un peu c'est le thème de notre émission, de découvrir un peu plus le Saint-Esprit. J'aimerais aussi qu'on aborde un peu ces prières dans l'esprit qui sont souvent invoquées dans une partie du catholicisme contemporain. Est-ce que n'importe qui, j'allais dire, peut imposer les mains pour transmettre l'Esprit Saint. Voilà, c'est un peu toutes ces questions. Et puis d'autres, beaucoup d'autres, parce que vous allez intervenir. Mais voilà. Qui est l'Esprit Saint ?
On peut peut-être donner déjà une première définition, n'est-ce pas ?
C'est pour ça qu'il est utile dans cette émission.
Bon, rappelons que, selon la foi catholique, il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est, selon les termes de la théologie et de la révélation, spirée par le Père et le Fils, qui procède du Père et du Fils.
Qu'est-ce que ça veut dire, spirée ? Pardon,
on y reviendra. Plus tard, d'accord. Qui procède du Père et du Fils, ou bien qui procède du Père par le Fils. Donc les deux formules entendu dans le sens réellement de l'orthodoxie et de la foi, sont équivalentes, n'est-ce pas ? Et effectivement, nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle des appropriations qui vont nous permettre d'approcher, mais on en parlera dans un second temps, d'approcher effectivement les trois personnes de la Sainte Trinité et notamment le Saint-Esprit. Mais fondamentalement, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, donc spirée ou qui procède du Père et du Fils.
Oui, et nous pouvons, alors pour vous éclairer, je suis mal placé, mais on peut simplement ajouter que contrairement au Père et au Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, puisque le Père est également Esprit et le Fils est également Esprit. Ce n'est pas un nom parce que c'est une réalité qui est invisible, donc on ne peut pas donner de nom à une réalité invisible. C'est Dieu qui donne les noms aux réalités invisibles. Donc c'est peut-être pour cela que le Saint-Esprit est un peu, peut-être pas le mal-aimé, mais un peu l'oublié.
Oui, l'oublié, c'est ce qu'il se dit assez souvent.
Un peu l'oublié, mais comme vous l'avez précisé en commençant, il n'est pas oublié par tout le monde, et il y a peut-être même une surenchère aujourd'hui, une surenchère contemporaine. Alors on ne parle plus beaucoup de Saint-Esprit ou d'Esprit Saint, mais plutôt l'Esprit. L'esprit qui souffle
de manière un peu vague,
donc également avec un côté qui parfois peut verser dans le l'ésotérisme, parce que l'esprit, il y a aussi d'autres esprits. Les anges sont des esprits, et puis aussi les âmes des justes sont des esprits. Donc tout ça peut prêter un peu à confusion.
On va d'ailleurs essayer de déblayer.
Rappelons que notre Seigneur a donné un autre nom, le Paraclet, c'est-à-dire avocat et consolateur, n'est-ce pas ? Donc le Paraclet est aussi un nom du Saint-Esprit.
Monsieur l'abbé, qui est le Saint-Esprit ?
Eh bien, justement, pour reprendre ce que dit le Père Thomas, pour nous, dans notre nature humaine, le Fils est facile à saisir puisqu'il il s'est fait homme. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, il a pris notre nature humaine, il a pris un corps. Et ainsi, il a enlevé l'interdit de la représentation de Dieu. Il était interdit de représenter Dieu. Et puis, comme Dieu a fait, il est venu lui-même en assumant notre nature, à ce moment-là, on peut le dessiner, on peut le sculpter, sans faire une idole, puisque c'est par la nature humaine de Jésus qu'on accède à lui. Le Père, eh bien, l'Ancien des Jours, de manière plus ou moins adroite, on l'a représenté. On a essayé de le représenter. On a représenté un vieillard.
Et vous alors avez qu'il ne s'est pas incarné.
Qu'il ne s'est pas incarné. Donc, on ne peut pas s'empêcher de vouloir représenter, parce que nous sommes dans un monde sensible. Et récemment, j'ai vu de très belles peintures du Père, dans des églises, et d'autres beaucoup plus naïves. Voilà.
Oui, c'est souvent
c'est l'Ancien des Jours, c'est un vieillard. Parce que je ne sais plus si c'est saint Augustin qui prend cette image. Je l'ai retrouvée dans un catéchisme. Dieu, dans son être éternel, est en un seul acte. Il se pense lui-même et il s'exprime. Il dit ce qu'il est lui-même, totalement lui-même. Et c'est son verbe. Le verbe qui est dans la phrase, celui qui est le mot qui exprime l'action. Dieu s'exprime tout entier. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas deux dieux, c'est le Père se dit tout entier dans le Fils. C'est sa parole éternelle. Et on compare alors à ce moment-là Dieu qui se comprend, l'intelligence en Dieu, c'est le Père qui exprime son Fils. Et on ferait cette comparaison que Dieu, lorsqu'il s'est dit, ensuite, il exprime son amour qu'il y a entre le Père et le Fils, d'ailleurs. Dieu qui se comprend et Dieu qui aime. Et il n'est pas narcissique, hein, c'est pas qu'il se, qu'il se trouve beau dans son miroir, mais c'est quelque chose de cela. Comme nous-mêmes, lorsque nous réfléchissons sur nous-mêmes, on voit nos péchés, mais on voit aussi nos qualités et on rend grâce à Dieu. Et l'Esprit-Saint exprimerait cet amour éternel, intemporel de Dieu. Alors on le représente ensuite, je vais peut-être m'arrêter, parce que les autres représentations sont un peu plus simplistes finalement, où c'est Dieu lui-même qui représente sa douceur de son amour sous la forme d'une colombe. Alors, on les représente plus ou moins maladroitement, on a l'impression que c'est un pigeon parisien ou une perdrix, alors que lorsque c'est très bien représenté, effectivement, l'amour de Dieu est aussi délicat et beau comme une belle colombe.
Et qu'une colombe. Alors, tout ça dans un acte unique, c'est pas dans le temps que se réalise... ce que vous venez de nous décrire. Guillaume, est-ce que l'Esprit-Saint est le délaissé du monde chrétien aujourd'hui ?
Ouais, c'est sûr que dans le monde latin en particulier, on a quelques difficultés. Moi, je voudrais insister quand même sur le fait qu'il y a un autre poumon séparé et uni à Rome selon les cas, mais dans le monde oriental, le Saint-Esprit est beaucoup plus présent que chez nous. Et donc, il est tout à fait possible dans l'orthodoxie, au sens de croire la vraie foi. Je ne parle pas du tout de l'orthodoxie séparée spécialement, hein, je parle des chrétiens orientaux en général. Il est tout à fait possible d'avoir une foi très pneumatologique, comme on dit. Et donc, ce n'est pas forcément une dérive. Pour moi, ce qui peut devenir une dérive, c'est le risque de... recréer artificiellement une pneumatologie à partir de l'Occident et notamment des dérives postmodernes de l'Occident, c'est-à-dire le New Age, pour faire simple, ou la mouvance hippie, parce que beaucoup de choses autour des du monde un peu allant assez loin dans les dérives pas spiritistes, mais un peu spiritualistes en Occident, viennent plutôt du monde américain, anglo-saxon, protestant, et pas tellement du retour aux sources, et spécialement pas du retour aux sources orientales. Voilà. Moi, je trouve qu'on aurait tout intérêt, à la fois pour notre propre foi de catholique latin enraciné dans la tradition d'un côté, et de l'autre côté pour répondre aux dérives très modernes dont on parlait, à revenir aux sources orientales pour... typiquement, l'art des icônes nous est très utile, à mon avis, pour redécouvrir ce qu'est le Saint-Esprit dans la Trinité, enfin c'est redécouvrir, alors je ne dis pas du tout qu'on a abandonné dans le monde latin, mais on a moins prié de cette façon-là.
Une réaction à ce que vient de dire Guillaume de Thieulois
je pense qu'effectivement nous pouvons aller puiser chez les pères orientaux qui ont probablement plus parlé que les pères latins, et c'est ce que je pense veut dire M. Thieulois, il faut le faire en restant des latins.
Absolument.
Et non pas en faisant un orientalisme de pacotille. Parce que c'est ça qui est le danger, si vous voulez. On va prendre 2-3 bricoles chez les pères grecs, alors qu'ils ont une dogmatique extrêmement élaborée, et on en fait, un orientalisme et une pneumatologie de pacotille, de peu de valeur. Il faut effectivement aller puiser, parce qu'ils ont développé spécialement ce thème, donc c'est très intéressant. Mais... rappelons que Mgr Lefebvre, par exemple, avait fait un sermon très intéressant à propos du charismatisme, dans lequel il rappelait que le Saint-Esprit vient par les sacrements, n'est-ce pas ? Il est donné, chaque sacrement nous donne le Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit, etc. C'est dans les sacrements. C'est par là que, effectivement, notre Seigneur a voulu nous transmettre son esprit, parce qu'il dit c'est l'esprit du Père, c'est mon esprit, c'est l'esprit de la Sainte Trinité. Effectivement, nous recevons ce Saint-Esprit. Donc, même si on n'en parle pas, peut-être pas autant que les Grecs, nous le vivons en profondeur à travers les sacrements. Et ce que
qui est le mode ordinaire, si
qui est le mode, qui est le mode que notre Seigneur a institué. Vous parliez d'imposer les mains. C'est au cœur des sacrements, l'imposition des mains est au cœur des sacrements, par laquelle est transmis l'influx du Saint-Esprit. Et donc, effectivement, ce n'est pas, je dirais, à chacun d'inventer de nouveaux sacrements, si je puis dire, de décider que le Saint-Esprit viendrait par des formes nouvelles qu'il inventerait, mais c'est au contraire de vivifier et de faire vivre ces moyens que notre Seigneur lui-même a institué pour transmettre le Saint-Esprit. Je rappelle, notre Seigneur, ce sont les textes actuels que nous sommes en train de lire en ce temps qui nous amènent à la Pentecôte, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre recevez le Saint-Esprit et effectivement la confession, par exemple.
Père Thomas ?
Oui, en effet, ce sont les sacrements qui nous donnent le Saint-Esprit, mais on peut dire aussi l'inverse. Alors, ce n'est pas pour toujours mettre sur la table en même temps, mais bon...
intéressant comme rapprochement.
Mais c'est aussi, oui, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous donne les sacrements, parce que, comme disait M. l'abbé tout à l'heure, il est communication. Donc, c'est toute notre vie spirituelle vient du Saint-Esprit, par cette communication divine. Évidemment, l'image est un peu mal employé, mais dans la Sainte Trinité, chacun a aussi sa tâche.
Et ben justement, c'est à peu près la question que je voulais poser. Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit, dans la Sainte Trinité, donc a un rôle, une tâche particulière, ou des tâches, ou des rôles particuliers?
Là, on va peut-être faire un petit peu de théologie, c'est un tout
non,
petit peu plus...
Non, parce que jusqu'ici,
un tout petit peu plus difficile.
Nous ne serons pas capables de suivre, monsieur.
Voilà. Non, mais je parle pour nos auditeurs, n'est-ce pas? Il faut se souvenir, c'est très important, il faut se souvenir que les œuvres dites ad extra, c'est-à-dire la création, tout ce qui est de l'ordre de la création, les œuvres ad extra de la Sainte Trinité sont l'œuvre du Dieu unique. Sont pas l'œuvre de telle ou telle
donc,
personne.
Père, Fils et Saint-Esprit.
Voilà, ensemble, dans le Dieu unique. La différence entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est seulement à l'intérieur de la Sainte Trinité, n'est-ce pas ? Donc les œuvres ad extra. Et c'est pourquoi, si vous voulez, toutes les œuvres qui se font ad extra, sauf la relation de l'homme Jésus à la seconde personne de la Sainte Trinité, qui est une relation particulière parce que c'est une relation de personne, mais sinon, toutes les œuvres sont les œuvres de Dieu unique. Et on approprie, c'est la révélation qui le fait, on approprie à telle ou telle personne, cette œuvre qui est l'œuvre commune des trois personnes, on approprie telle œuvre pour mieux faire connaître, mieux, parce que cette personne a une certaine affinité avec cette œuvre. Et donc, on va effectivement dire que le Père est le créateur et le révélateur. On va dire que le Fils, n'est-ce pas, est celui qui va vers l'homme. Et au Saint-Esprit est approprié spécialement, n'est-ce pas, la sanctification, la grâce, la charité. Et donc, effectivement, de fait, l'œuvre de la sanctification, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire, mais on l'approprie spécialement au Saint-Esprit parce que cette personne a une certaine affinité mystérieuse que nous donne la révélation avec cette dimension.
Par exemple, vous avez une Sainte Élisabeth de la Trinité va développer un enseignement qui est de toujours à toujours finalement. C'est l'inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme. C'est-à-dire que à notre baptême, Dieu vient. Et il n'y a pas que le Père et le Fils qui viennent, il y a le Saint-Esprit qui vient. Et Dieu est un Père qui aime un Fils de toute éternité, il vient habiter en nous. Et pour les orientaux, eh bien, on va tout de suite demander à l'Esprit-Saint qu'on reçoit au baptême. On est baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, par les mérites de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, on demande à l'Esprit-Saint d'amplifier son action. C'est ça le sacrement de confirmation. Eh bien, les latins le font plus tard, parce que d'ailleurs, historiquement, les premiers chrétiens n'ont pas eu la confirmation tout de suite parfois, ils étaient baptisés, mais pas encore confirmés. Mais les orientaux vont dire, eh bien, on va confirmer le bébé. Et on va même lui donner la Sainte Communion, hein, mais je passe. L'Esprit-Saint, c'est celui qui, dans la Sainte Trinité, va diffuser et répandre cet amour. Et d'où aussi la morale. Voyez, les fruits de l'Esprit-Saint, ça sera la bonté, la bienveillance, la patience, d'écarter la colère, d'écarter l'envie, d'écarter la jalousie. Ça sera aussi la chasteté, la pureté. Toutes sortes de dons qui renforcent notre âme, et avec les sept dons du Saint-Esprit qui sont la sagesse, la science, la force, la piété, le conseil. Et tout cela, voyez-vous, pour revenir à votre question précise sur ce qui se passe de nos jours, on impose les mains à la confession. Le prêtre doit imposer la main. Alors, avec le temps, on ne touche pas la personne, hein, et on sait bien, mais on impose la main. On impose la main au baptême, on impose la main à la confirmation, on impose les mains. Et c'est dommage d'avoir, parce que c'est vrai que l'Occident s'est refroidi, mais l'illuminisme, c'est aussi le 19e siècle hein, chez les protestants, l'abbé Viot nous en avait parlé. Donc, on a voulu ressentir de l'amour, de la joie, et on a inventé des gestes. Et donc, c'était en 1900. Moi, j'ai entendu de mes oreilles un prêtre dire Léon XIII, puisque Saint-Pédis, c'est 1903, hein, Léon XIII, en 1900, demande à l'Esprit-Saint d'illuminer le nouveau siècle. Eh bien, ce seraient les protestants qui l'ont reçu. Un groupe presbytérien, une femme est tombée dans les pommes, s'est relevée, elle dit « J'ai des fleuves d'eau vive qui coulent dans mon âme, je suis très très heureuse, je suis dilatée. » Et les deux qui étaient avec lui, qui étaient, je ne sais plus, un luthérien et un autre, disent « Mais est-ce qu'on pourrait avoir ces mêmes phénomènes, n'est-ce pas ?» Elle leur impose les mains, nos deux, ils tombent tous les deux en catalepsie, ils se relèvent, « J'ai des fleuves d'eau vive. » Et c'est de cette branche, en marge du Concile Vatican II, de ces personnes qui se sont imposées les mains depuis, ont imposé les mains à deux prêtres catholiques. Et ça a été le début du pentecôtisme et du mouvement charismatique catholique. Et donc, là maintenant, je m'arrête pour que vous puissiez parler aussi de cela. Et il y a un vrai problème, parce que moi, je n'attends de l'amour de Dieu que par l'action de l'Esprit-Saint dans la prière et dans le recueillement, et dans le don gratuit, et par les sacrements, mais pas par des écoles de guérison, par exemple. on apprend à avoir un charisme, on apprend à avoir un don gratuit de Dieu, mais c'est pas possible.
Je voudrais, merci Monsieur l'Abbé, mais je voudrais revenir sur le rôle du Saint-Esprit, et puis on reviendra à ces questions importantes, mais il me semble que, me souvenir que le Christ dit quand même à ses apôtres qu'il doit s'en aller, enfin qu'il doit retourner au Père plus exactement, pour que l'Esprit-Saint puisse venir. Pourquoi cette nécessité ?
Voilà, notre Seigneur s'est incarné, donc comprenons bien que notre Seigneur là est dans son humanité, il est en train de parler dans son humanité, qui est évidemment dans la personne et la personne divine, n'est-ce pas ? Mais au sens propre, si vous voulez, cette relation à la personne n'est pas exactement une œuvre ad extra, qui est l'œuvre des trois personnes appropriées selon les cas. Hein. Donc notre Seigneur dit, je dirais, le côté humain, le côté de l'être humain que je suis, pourrait faire obstacle à la vie proprement spirituelle, c'est-à-dire à la vie d'union à Dieu à travers l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne doit pas s'arrêter à notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme. C'est ce que notre Seigneur dit à Sainte Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné au Père pour qu'effectivement il y ait cette relation à travers notre Seigneur Jésus-Christ, mais vers Dieu, et non pas s'arrêtant, à l'aspect humain, si vous voulez, proprement humain.
Père Thomas.
Oui, le Saint-Esprit apparaît parfois comme, alors j'exagère un peu en employant ce terme, mais comme une invention du christianisme. En tout cas, quelque chose qui aurait été donné par notre Seigneur, faute de mieux. Je suis obligé de vous quitter, donc je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit, il est présent déjà dans l'Ancien Testament. Il fait partie à part entière de la révélation. On voit bien avec, par exemple, David dans le livre de la Sagesse, puis évidemment le prophète Isaïe qui est celui qui parle des dons du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est à part entière...
dans toute la révélation.
Dans toute la révélation, et dans la divinité. Donc... c'est vrai qu'à notre époque, alors il y a ce qu'a dit M. l'abbé Galfucci à propos de cette naissance de ce qui va être le mouvement charismatique au sens large, mais il y a aussi, indépendamment de ce mouvement, un attachement à l'esprit qui est un attachement qui est plus émotionnel, mais qui n'a rien à voir avec le fond de la vie spirituelle catholique traditionnelle.
Alors vous avez parlé des dons du Saint-Esprit l'un et l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a distingué, pourquoi on a distingué plus particulièrement ces dons?
Parce qu'ils sont énumérés, comme dit.
C'est révélé.
C'est parce qu'il y a
une révélation qu'effectivement il y a sept dons, n'est-ce pas, qui sont les fruits de l'action du Saint-Esprit dans notre âme et qui vont si vous voulez, s'adjoindre aux vertus naturelles, puis les vertus surnaturelles, et enfin les dons du Saint-Esprit. Les vertus surnaturelles sont donc divines par leur origine, puisqu'elles sont pour l'origine de la grâce, mais elles ont encore un mode humain de se réaliser. Et les dons du Saint-Esprit sont divins par leur origine et par le mode, c'est-à-dire que c'est le moment où, si vous voulez, l'action humaine, quand elle est mue par les dons du Saint-Esprit, va vraiment être, je dirais, divinisée dans ses profondeurs de façon à ce qu'il y ait une harmonie parfaite entre le Fils de Dieu, si je dirais, et Dieu lui-même. Alors que dans la vertu surnaturelle, qui est d'origine divine, qui est d'origine de la grâce, et qui va bien sûr vers la grâce, mais il y a encore un mode humain bon en soi, puisque c'est la nature que le bon Dieu nous donne, mais qui n'est pas encore, je dirais, totalement à la hauteur de l'œuvre que Dieu veut réaliser en nous.
Et il faut absolument que ceux qui n'ont pas été confirmés demandent la confirmation, parce que un des sept dons de l'Esprit-Saint qui se développe dans ce sacrement, c'est le don de force. Et de garder la foi et l'espérance dans le monde contemporain, c'est capital. Et le martyr... c'est celui qui n'a pas peur de mourir pour croire, espérer, pour aimer Dieu. Eh bien, les martyrs ont été très nombreux dans les premiers siècles. Il y a encore des martyrs de nos jours. Mais le martyr quotidien de résister aux plaisirs et aux loisirs occidentaux qui nous gavent, n'est-ce pas, et d'avoir une vie spirituelle, c'est aussi une vertu de force. Et la vertu de force se dédouble en deux sous-vertus, qui est de résister avec une certaine énergie, hein, c'est l'agrédi, mais il y a aussi le soustinere, c'est-à-dire une grande patience à supporter ce qui est contraire à la foi, et ce qui est contraire à l'espérance, et ce qui est contraire à la vraie charité, c'est-à-dire justement, et j'y reviens, le sacrement de confirmation, il a été un peu abandonné, les gens le redécouvrent, je parle par exemple pour la France, mais il faut vraiment que ceux qui n'ont pas encore été confirmés aillent voir un prêtre et demandent à recevoir ce sacrement.
Guillaume Gelois, vous dites aussi...
Je voudrais juste faire deux petites remarques. Il y a évidemment des origines très problématiques au pentecôtisme, y compris catholique, mais il faut aussi voir que le pentecôtisme a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, le monde charismatique, en particulier en France, est beaucoup plus régulé par la liturgie et par les sacrements reçus de l'Église. Ils ont gardé, je pense, une partie de baptême dans l'esprit, etc., mais qui est très minoritaire, très, très subsidiaire. Et donc, d'un certain côté, il faut aussi mettre ça dans la balance. Ça a été quand même assez nettement rééquilibré depuis une cinquantaine d'années. Donc, il n'empêche que, pour moi, le baptême dans l'esprit continue à être un peu problématique, mais il faut aussi voir qu'une partie très considérable du monde charismatique n'est pas très sensible à cet aspect de baptême dans l'esprit. C'était la première chose que je voulais dire. Et puis, deuxième chose, le père Thomas disait ça il y a quelques minutes, sur le fait, c'est une critique qu'on entend très souvent, que les chrétiens ont inventé le Saint-Esprit et de façon générale toute la dogmatique autour de la Sainte Trinité. C'est une critique qui vient en particulier du monde unitarien, donc les plus radicaux des protestants qui ont été jusqu'à revenir quasiment islamiques, à dénoncer le fait que le Fils soit le Fils et le Saint-Esprit une personne. J'ai en particulier eu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, une discussion avec des témoins de Jéhovah, qui sont la plus grande église, entre guillemets, unitarienne, à ma connaissance, et donc qui venait évangéliser des bons catholiques pour nous apprendre qu'on faisait erreur sur la Trinité. Et je leur ai demandé, un peu au bluff d'ailleurs, s'ils avaient une Bible sous la main. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont supprimé ce passage-là? Mais donc j'aurais montré la fin de Saint Matthieu où il dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et est-ce que vous pensez que c'est dans la Bible ou est-ce que vous pensez que c'est une invention
C'était bien dans leur Bible.
C'était dans leur Bible. Donc je peux vous confirmer, si vous voulez, chers amis téléspectateurs, vous pouvez recommencer l'expérience autant que vous voulez. Dans leur Bible, il est précisé qu'il y a une trinité, et donc je pense que nous sommes parfaitement fondés. Alors qu'après ça, le développement dogmatique a été un développement de théologiens, et donc il y a une part humaine, c'est-à-dire qu'on a la formulation est une formulation en grec, en latin, c'est très juste. Enfin, il n'empêche que ça a été reçu. C'est comme d'ailleurs tout ce que nous croyons, c'est pas notre invention.
Est-ce qu'ils ont les actes des apôtres aussi? Parce que dans les actes des apôtres, on parle beaucoup de l'Esprit Saint.
Je crois que oui, mais là, pour le coup, je n'ai pas vérifié.
Oui, mais là, en tout cas, c'est très clair.
En tout cas, le baptême est la base du christianisme et le baptême est dans la Sainte Trinité. Voilà, on ne peut pas échapper à cette chose-là. C'est absolument clair. Et notre Seigneur ne fait aucune différence, n'est-ce pas? Le baptême qui serait donné, je ne vais pas dire au nom du Père qui engendre le Fils, etc., ne serait pas. Non, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de façon égale et semblable.
Monsieur l'abbé Cellier tout à l'heure parlait du nom qui avait été donné au Saint-Esprit par notre Seigneur, à savoir le Consolateur, le Paraclète. Et en effet, au moment de la scène, notre Seigneur dit qu'il va laisser à ses apôtres le Consolateur et l'Esprit de vérité. Alors, Consolateur, ce n'est pas à entendre comme celui qui vient sécher nos larmes, évidemment.
Ah, c'est dommage.
Bon, alors il peut le faire aussi.
Ah bon, d'accord. Mais parfois, c'est... la vie est rude, quand même, comme
voilà.
Disait le...
La vie est rude, non. Il s'agit de vraies consolations spirituelles, donc ce sont des fruits de la grâce. Mais c'est toujours en lien aussi avec cette vérité. C'est le Saint-Esprit qui est le garant, pour nous, de la vérité de la foi.
Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit confirme l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit anime l'Église. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église catholique, n'est-ce pas? Et l'anime pour la maintenir dans la vérité et pour la maintenir dans la charité. C'est, je dirais. Mais si on peut dire, si vous voulez, selon le système que nous avons donné, qui est dans la révélation de l'appropriation, on va dire qu'au Père, qui est le Créateur et le Révélateur, est en particulier approprié l'Ancien Testament, car c'est la grande révélation divine, n'est-ce pas ? Évidemment, au Fils qui s'est incarné est approprié spécialement le Nouveau Testament, et le Saint-Esprit, on en parle et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais évidemment, il est moins au premier plan, et c'est en ce sens qu'on a un peu plus de mal à le discerner, mais dans la réalité, c'est lui qui nous anime, c'est lui qui nous guide, et si je puis dire, nous verrons toute sa place mieux quand tu seras arrivé dans la vie éternelle, où éclatera cette action du Saint-Esprit.
C'est ce que j'allais ajouter. On dit beaucoup qu'on ne connaît le Saint-Esprit que par ses effets, et évidemment c'est profondément juste, mais enfin ça va aussi des autres. Notre connaissance et du Père et du Fils ne vient... Alors, pour le Fils, il y a des personnes qui l'ont connu comme personne humaine, mais ils ne l'ont reconnu comme Dieu que par la révélation, par des choses qui nous échappent à titre de personne humaine, quoi.
Oui,
monsieur Levé.
Et une des manifestations sont les miracles. Alors, d'ailleurs, la résurrection de notre Seigneur est l'œuvre de la Sainte Trinité. Ce n'est pas seulement le Père qui ressuscite Jésus, c'est lui-même qui se ressuscite et l'Esprit Saint qui ressuscite la nature humaine de Jésus. Mais les miracles. Et là, actuellement, justement, comme nous avons passé des décennies et des décennies d'une certaine sécheresse, bon, on ne regarde pas le Padre Pio, on ne regarde pas, Mère Yvonne Aimée de Malestroit, qui était une vie de miracle, donc on néglige les miracles qui sont trop liés, finalement, à la foi catholique profonde. On veut des manifestations particulières, des parlers en langue, par exemple. Mais saint Paul dit bien que si on a un parler en langue, s'il ne se comprend pas, il faut que quelqu'un ait aussi un don de l'Esprit-Saint pour le traduire. Et s'il n'y a personne pour traduire un parler en langue, eh bien, il doit se taire. Et ces charismes, saint Paul en parle, il dit, vous pouvez avoir des parlers en langue, vous pouvez avoir le don des miracles, vous pouvez guérir, mais ce n'est rien par rapport à la charité.
Épître aux Corinthiens.
Et la vraie charité. Et c'est, à un moment donné, j'avais une discussion bien franche. Je dis, on prétend avoir des paroles de connaissance sur les personnes, sur le futur, très bien, mais j'espère que vous respecterez la sainteté du mariage. Parce que toute une partie du mouvement charismatique protestant admet le divorce, qui est une grande blessure contre la charité. Et donc, l'Esprit Saint ne peut pas conforter tout un ensemble qui pourrait finalement blesser, par exemple, la famille. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas réduire la religion à la morale, mais l'Esprit Saint souffle où il veut, mais il va porter à un moment donné, quand même, à une bienveillance et une bonté et à un pardon, par exemple, dans le couple. Vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît ceux qui sont liés à Dieu et au vrai Dieu.
Merci, monsieur l'abbé. Guillaume de Chulois, vous avez évoqué tout à l'heure le baptême dans l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Je ne peux pas en dire grand-chose parce que je n'ai jamais vu ça, mais de ce que j'en ai lu et entendu, il s'agit un peu de ce que décrivait l'abbé Galfucci, c'est-à-dire cette espèce d'imposition des mains.
Par un laïc.
Et une espèce de catalepsie qui s'ensuit.
Qui s'ensuit forcément ou qui est l'un des effets possibles.
De temps en temps.
Possibles, en tout cas, oui.
Et aussi, vous avez
actuellement... C'est considéré comme un...
Ben, un huitième sacrement.
Comme un sacrement ou pas
je crois, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais je crois que dans le monde charismatique catholique, il y a d'assez gros débats sur ce genre de sujet. La partie orthodoxe, qui en France, à ma connaissance, est majoritaire, mais la partie orthodoxe ne croit pas que ce soit un huitième sacrement, pense que c'est un sacramental. Je ne sais pas s'ils le disent comme ça, mais c'est comme ça que je traduirais en tout cas. Et donc, ils estiment que c'est un moyen sensible de s'unir au Saint-Esprit.
Père Thomas, sur le sujet, peut-être ?
Oui, alors sur le sujet, même dans des mouvements qui sont des mouvements charismatiques plus classiques, il y a en tout cas chez certains des membres, une confusion et l'affirmation que ben, il manque quelque chose aux sept sacrements, donc il faut rajouter. Et il y a une distinction qui est faite entre le sommeil dans l'esprit et le baptême dans l'esprit. Donc le baptême dans l'esprit, ce serait ce huitième sacrement, en fait, avec une apposition des mains. Et le sommeil dans l'esprit, alors c'est quelque chose qui est peut-être moins courant maintenant, mais qui s'est beaucoup pratiqué dans certains groupes, qui est également une apposition des mains avec une cataplexie qui suit.
Et pourquoi ce terme de sommeil? Parce qu'on
perd connaissance. Oui. La personne tombe d'un seul bloc.
Et ce qui est un signe de possession diabolique en règle générale.
Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est interprété différemment par ces groupes.
Accessoirement, pour moi, il y a un vrai sujet qui n'est pas directement lié au Saint-Esprit, mais il y a un sujet sur le discernement des esprits. Ce n'est pas parce qu'on impose les mains que nécessairement c'est le Saint-Esprit qui vient. Mais, il peut se faire qu'on soit possédé par des esprits mauvais. Enfin, ça existe. Pardon, je ne suis pas un grand spécialiste du sujet, donc je laisse volontiers la parole à d'autres. Mais pour moi, il y a cette espèce de « je claque des doigts, le Saint-Esprit vient », moi, ça me met très mal à l'aise. Mais,
c'est contraire exactement à ce que dit saint Paul dans les Corinthiens dont parlait l'abbé Guelfouchi. Saint Paul rappelle bien que ce sont des dons gratuits qui sont donnés gratuitement et donc dont on ne peut pas être les maîtres et les possesseurs et qu'on ne peut pas transmettre puisqu'ils sont donnés directement par Dieu. Et le mot sacramental est très intéressant parce qu'il y a l'organisme que notre Seigneur Jésus-Christ a transmis à l'Église qui s'appelle les sept sacrements, auquel on peut adjoindre ce que j'appellerais des cérémonies, chaque ordre religieux à sa façon de procéder de telle ou telle façon, c'est très bien, qui aide, qui dispose, mais qui ne peuvent être que dispositifs. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas remplacer les sacrements. Alors qu'à tel ou tel moment, on impose les mains, dans un sens orthodoxe, etc., pour manifester ce désir que vous receviez l'Esprit-Saint, pourquoi pas? Mais ne pas dire que ça donne l'Esprit-Saint, car seuls les sacrements donnent l'Esprit-Saint, de façon certaine.
À coup sûr, hein. Père Thomas, sur le discernement des esprits,
oui,
peut-être?
Oui, c'était justement pour illustrer ce que vous disiez sur le discernement des esprits. Comme vous le savez, saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus...
Nous avons Jésus parmi nous,
allez. Non, mais bon, a passé quand même une grande partie de sa vie à se pencher sur le problème... Et notamment, lorsqu'il était dans ce processus de conversion, il y a ce phénomène qui est très intéressant. Lorsqu'il était dans sa grotte à Manresa, en essayant de vivre de la façon la plus radicale, comme les pères de l'Église, et même de faire mieux, il prenait beaucoup de plaisir parce qu'il avait des visions. Et notamment, une vision où il dit que c'était une forme lumineuse avec beaucoup d'yeux. Donc, un œil multiplié par 100 ou par 1000. Et lorsque la vision disparaissait, il était en fait dans un état non seulement de désolation, mais de désespérance complète. Et jusqu'à avoir eu le désir de se suicider, de se précipiter dans le puits qui était à côté de lui. Et donc ce n'est que peu à peu qu'il a réalisé que cet esprit était le mauvais esprit. Donc tout ce qui est lumineux, tout ce qui est apparemment miraculeux, phénomène extraordinaire ne provient pas évidemment du Saint-Esprit.
Lucifer était l'ange de lumière, hein, c'est quand même.
Puisque vous parlez de Saint Ignace, il y a bien les règles de discernement.
Règles de discernement
très importantes
dans les exercices.
Bien sûr.
Voilà. Que dit Saint Ignace.
Justement parce qu'il l'a vécu
parce
lui-même.
Parce qu'il l'a vécu, donc c'est le fruit.
Comme il dit, si ça, grosso modo, si à la sortie d'un phénomène dont on n'est pas le maître, d'un phénomène spirituel dont on n'est pas le maître, il y a plus de ferveur, plus de désir d'aimer Dieu, etc. Voilà qui sera un critère. Si au contraire, on est abattu, désolé, etc., il y a un discernement à faire en disant, attention, on est... Effectivement, saint Ignace va tester des choses, et puis, par exemple, des lectures qu'il faisait, et puis cette lecture le laissait décourager. Il dit, voilà, c'est pas une bonne lecture. Cette lecture me donne le zèle. Il va pas vouloir lire. Il voulait lire des romans de chevalerie quand il était malade, enfin, alité. Et on va lui donner la vie des saints, la vie de Jésus, le Chartreux, etc., l'imitation de Jésus-Christ, et il s'apercevra que chaque fois qu'il lit ça, son âme est pleine de flamme pour Dieu, et c'est là qu'il découvrira qu'effectivement, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller.
Très bien, merci beaucoup de ces éclairages. Peut-être pour terminer, un tour de table, je vous prends un peu... Oui, je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est le risque de cette émission. Un tour de table pour peut-être un conseil... quelque chose du genre pour augmenter notre amour du Saint-Esprit. Guillaume, est-ce que vous voulez vous lancer pour montrer la voie
très volontiers
au clergé.
Pour moi, je ne suis pas du tout un pasteur, et donc ce n'est pas à moi d'encourager, mais il me semble que la première des choses à faire, c'est de profiter de cette neuvaine. Donc il est encore temps, je crois que ça va paraître juste avant la Pentecôte, il est encore temps de finir la neuvaine de demande du Saint-Esprit pour la Pentecôte. On peut utiliser, moi j'utilise régulièrement et quotidiennement en l'occurrence, des prières d'appel au Saint-Esprit. Il y en a un certain nombre de traditionnelles très belles, très érodées, très confortées par les siècles. Et donc, personnellement, je ne suis pas un grand fan des innovations et je trouve que c'est... il y a plein de belles prières pour appeler. Et puis à côté de ça, il y a évidemment beaucoup de chants nouveaux qui sont très beaux aussi, donc je n'ai pas du tout d'inconvénient à ça. Voilà, je pense qu'on peut... il y a 1000 prières pour demander le Saint-Esprit.
Alors moi, Monsieur
Abbé Gallufucci.
Pour moi, la prière la plus belle, c'est la séquence du jour de la Pentecôte. Ce n'est pas l'hymne des Vêpres, le Veni Creator, qui est très beau, joli, hein, mais c'est celui qui est entre l'Épître et l'Évangile.
Et l'Évangile, la séquence. Donc.
Voilà. Veni Sancte Spiritus.
Veni Sancte Spiritus, assouplis ce qui est rigide.
C'est bon pour nous.
Voilà, c'est très beau.
Réchauffe
ce qui est froid. Donnez votre rosée à ce qui est sec. Enfin, c'est extraordinaire.
Donc, lire la séquence,
et même la prier bien plus souvent que les 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est une très très belle prière. Et puis, sans compter le fait que la Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit, et que c'est l'Esprit-Saint qui, dans l'œuvre ad extra, de manière dans une appropriation, agit sur la Vierge Marie pour former l'enfant Jésus.
Merci beaucoup. Mon père, Père
oui,
Thomas.
Oui, de notre attachement au Saint-Esprit dépend aussi celui que nous éprouvons pour la Sainte Trinité, parce que si on laisse le Saint-Esprit de côté, eh bien, il manque quelque chose à la Sainte Trinité. Moi, j'inviterais plutôt à toujours se ressourcer dans la liturgie, dans les textes de la messe, où il y a ce rythme trinitaire, que ce soit le Kyrie, que ce soit le Sanctus, les doxologies, évidemment.
En général,
donc,
oui.
Il me semble que c'est un bain dans lequel on doit se plonger constamment.
On doit baigner constamment.
Oui.
Vivons de ce qui nous a donné primordialement le Saint-Esprit, c'est-à-dire vivons de notre baptême. Nous sommes des baptisés, et s'adjoint au baptême, bien sûr, les autres sacrements que nous avons reçus, la confirmation, la Sainte Eucharistie, la pénitence, le mariage, l'ordre, selon les cas. Mais nous devons vivre de ce baptême qui nous a donné le Saint-Esprit et l'ensemble de la Sainte Trinité, et qui le fait, comme l'a rappelé l'abbé tout à l'heure, qu'il le fait inhabiter en nous, n'est-ce pas ? Nous avons la présence du Saint-Esprit, la présence de la Sainte Trinité dans notre âme, et donc vivons de cette réalité quotidienne.
Merci beaucoup. Très bonne fête de la Pentecôte à tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème. D'ici là, eh bien, venez Esprit Saint et que Dieu vous garde.